Vous savez que Dieu est bon. Vous avez sûrement dû l'entendre souvent. Et pourtant, Dieu ne se cache pas à travers sa parole, parce que sa parole, elle décrit l'homme tel qu'il est. Il y a 3 semaines en arrière, je ne sais pas si vous en rappelez pour ceux qui étaient là, Raymond nous avait parlé de Jacob. Il l'avait fait d'une manière assez large, mais tout y était dedans. Hein. Et quand j'ai écouté cette prédication, oui, merci. Quand j'ai écouté cette prédication, je me suis dit, mince, Raymond, il est en train de faire ma prédication. Et puis bon, au fur et à mesure que je l'ai écouté, je me suis rendu compte que quand même, c'était pas tout à fait ma prédication. Ce qui montre une chose importante, c'est que la parole de Dieu, elle a des facettes. Et selon comment on l'aborde, eh bien c'est une facette de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu est souverain. Et c'est ça qui est important. Et dans sa souveraineté, Dieu parle. Et il peut parler par la bouche d'un prédicateur. Hein? Et c'est ce qui est important, c'est être à l'écoute. Alors, est-ce que votre cœur est disposé à entendre ce que Dieu a à dire ce matin? C'est léger, hein? Oui, heureusement qu'il y a Jean-Paul devant. Bien sûr qu'il faut écouter. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, comment voulez-vous que cette parole pénètre dans votre vie? Ce n'est pas possible. Alors, pour en revenir à ce fameux Jacob, certains commentateurs, alors je bouge un peu ce que me reproche mon épouse. Et moi j'aime bien bouger parce que ça me donne une forme d'assurance. Parce que croyez-moi, ça tremble là-dedans. La carcasse, elle est là, mais elle est bien en mouvement. Des commentateurs ont surnommé Jacob les 3 T. 3 T. C'est bizarre, hein? 3 T comme trompeur. Jacob a eu un vécu où l'a trompé. Alors vous allez me dire, oui, je me rappelle qu'il a eu la bénédiction, il a eu la bénédiction de son frère, et pour cela, bien sûr, il a trompé, mais il l'a trompé avec l'aide de sa mère. Mais il l'a trompé. Et puis, les années passant, voilà qu'il découvre sa future fiancée, future épouse, dans la personne de Rachel. Et le beau-père lui dit, si tu veux Rachel, il faut travailler pour moi 7 ans. 7 ans. Travailler et tu auras Rachel. Bon, Jacob a travaillé 7 ans. Et puis le jour qui est arrivé pour qu'il épouse sa Rachel, parce qu'il l'aimait, le beau-père lui a donné son aîné, qui s'appelait Léa. Et quand il s'en est aperçu, il va dire à son beau-père, « Mais pourquoi tu m'as trompé ?» Vous voyez, le trompeur qui se sent trompé. Voilà le deuxième T. Il faut compléter ce T, parce que lui, il a trompé encore après son beau-père dans les troupeaux. Et puis le troisième T, ça va être le thème de la prédication ce matin, c'est le trompeur qui est transformé. Et vous allez voir comment il transforme Dieu, comment il travaille une vie pour l'amener à le reconnaître. Alors, peut-être mettre la partie que je vais prendre ce matin, c'est dans Genèse, au chapitre 32, et à partir du verset 24 au 31. C'est ce qui nous est raconté, bien sûr, hein. Je vais descendre pour bien le lire. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi aller, l'homme, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, l'homme lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. C'est dommage, il manque un petit peu. Parce que justement, après, le nom va être changé. Jacob va devenir Israël. Mais ça sera la suite, peut-être, de la prédication. Alors, ça fait maintenant à peu près une bonne vingtaine d'années depuis la première tromperie, la première fois qu'il a trompé. Ça fait à peu près 20 ans que Jacob avait fait alliance avec Dieu à Bethel. La question que l'on peut se poser et qu'on doit se poser, est-ce que Dieu a été fidèle à sa promesse envers Jacob? Le mieux, écoutons l'intéressé. On ne l'a pas lu parce que c'était des versets un peu avant. Jacob va dire, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. C'est le verset 10 du chapitre 32. La bénédiction de Dieu n'est pas et ne sera jamais une émotion passagère. Au contraire, elle est une grâce permanente, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'attitude de Jacob dans ce chapitre 32 est très étonnante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, ce chapitre 32. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Mais au verset 7, il est dit que Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Pour la simple raison, parce que son frère, Ésaü, venait à sa rencontre avec 400 hommes. Et pour Jacob, il s'est dit, là, il vient comme ça, mon frère, c'est pour me tuer. Parce que il faut comprendre, ce frère, il a été dépossédé de la bénédiction de Dieu. Et il a haïssé son frère. Il l'a haïssé. Et donc, Jacob était très effrayé. Et la parole nous dit qu'il resta seul à cause de son frère. C'est ce que nous avons lu à partir du premier verset 24. Quand la peur de l'angoisse nous saisit, qui n'a jamais été angoissé? Qui n'a jamais eu peur? Je crois que ce qui est essentiel, en tout cas ici pour Jacob, c'est que lui s'est retiré dans un endroit tout seul. Je crois que c'est bon. Et on retrouve souvent dans la Bible des hommes et des femmes qui, à un moment donné dans leur vie, se sont retrouvés seuls. Et c'est le moment favorable où Dieu peut nous parler. Rappelez-vous dans Matthieu, je regarde Matthieu, mais ce n'est pas lui. Dans Matthieu, au chapitre 6, verset 6, il nous dit, quand tu rentres dans ta chambre, ferme la porte. Et dans le lieu secret, ton Père te voit et il te répondra. Une autre attitude de Jacob, c'est que soudainement, il est dit qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever du matin. Verset 24. Combien de fois avons-nous lutté avec nos propres forces? Pourquoi nous luttons avec nos propres forces? Parce que dans notre cœur, moi je ne parle pas pour vous, je parle pour moi, l'orgueil nous fait croire que nous sommes forts, que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous pouvons, combien de fois j'ai entendu ça, surtout quand j'allais dans les prisons, « Oh, mais vous savez, bon, je suis en prison, oui, c'est vrai, mais je me suis fait à la force de mon poignet. » Oui, je ne sais pas qu'il était en prison. Hein. Non, c'est ça l'homme, et l'homme en général. Vous pouvez le prendre tout à fait dans le pôle nord, dans le pôle sud, à l'est, à l'ouest. L'homme, quel qu'il soit, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa langue, en lui, l'orgueil est là. Jacob va lutter jusqu'à l'aurore. Et la question que je pourrais vous poser, depuis combien de temps tu luttes? Il y en a qui luttent contre le sommeil, d'autres qui luttent parce qu'ils ne veulent pas que Dieu ait un regard sur leur vie. Et je sais de quoi je parle, parce que moi j'ai lutté longtemps. Si vous le demandez à mon épouse, vous allez voir combien d'années j'ai lutté contre Dieu. Oh bon, gentiment, hein. Vous savez, Jacob luttait gentiment contre Dieu. Ça n'empêchait pas qu'il était trompeur. Il trompait son monde. La lutte de Jacob. Il nous est dit qu'il lutta toute la nuit jusqu'à l'aurore. Il avait un caractère bien trempé, Jacob. Je ne sais pas si votre caractère est aussi trempé que celui de Jacob, mais il nous est dit que là, l'homme a dû intervenir. Il va provoquer, il va boiter. Il est dit que, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, qu'il ne pouvait vaincre Jacob, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il désire dans un sens? C'est de régner sur notre propre caractère. Je ne sais pas quel est votre caractère, parce que chacun a son caractère. Mais Dieu veut régner entièrement sur notre vie, afin que nous soyons remplis de sa toute-puissance. C'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Il veut nous remplir. Est-ce que je veux être rempli de sa vie? Et Jacob, dans sa lutte-là, semblerait qu'il voulait montrer encore qu'il était le plus fort. C'est pour cela que Dieu, qui est souverain, à un moment donné, va toucher Jacob là où c'était sa force. Serein. Serein. Et le fait d'avoir touché juste un peu en dessous fait qu'il va boiter. Donc il va perdre sa force. Il est rendu faible. C'est Paul qui mentionne quelque chose d'important aux Corinthiens. Il dit, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je crois que ça sera toujours une vérité. L'être humain qu'on est, aussi bien vous que moi, même quand on est croyant, on pense qu'on est toujours quelqu'un de bien. Et il faut que de temps en temps, le Seigneur nous remette à notre place. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, pour moi, il me remet en place. Et heureusement qu'il me remet en place. Parce que ça me permet de dire, oui Seigneur, c'est toi qui règnes sur ma vie et je veux faire ta volonté. Regardez Pierre qui dit au Seigneur Jésus, qui venait d'annoncer sa mort et sa résurrection, il prend le Seigneur à part et il va lui dire, non, ce que tu viens de dire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Jésus est obligé de le reprendre. Et il va lui dire, Pierre, arrière de moi, Satan. Wow. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Et c'est ça, vous voyez, on peut suivre le Seigneur et avoir des pensées humaines qui nous font dire n'importe quoi, des fois. Une autre attitude de Jacob dans ce fameux combat, c'est qu'on voit Jacob s'accrocher à l'homme. Mais il s'accroche d'une manière tenace. Il ne veut pas le lâcher. Il le tient. Il a une force telle. Et Jacob va dire, au moment où il a été blessé, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Le brisement est devenu une réalité. Celui qui a résisté jusqu'au bout change d'attitude et demande une grâce particulière. Vous savez que le Seigneur répond toujours lorsqu'un cœur est brisé et qu'il sollicite le secours divin. On connaît bien ce psaume qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et répond à tous ses besoins. » Oui, c'est vrai. Quand un malheureux crie, Dieu entend et il répond. C'est ça. C'est ce qui fait la démonstration que Dieu est un être vivant qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il répond toujours à l'homme qui s'adresse à lui avec un cœur brisé. Et on peut dire qu'à partir de là, Jacob va avoir un changement complet. Ce changement complet va se réaliser pour la simple raison que son nom va être changé. Ça va prendre une autre tournure. Le nom de Jacob, qui était trompeur, dans un sens, ça voulait dire ça, trompeur, et qui évoquait la tromperie, a été changé à celui d'Israël, qui signifie, dont la signification est celui qui lutte avec Dieu. Oui, celui qui lutte avec Dieu. Un nouveau nom indique une nouvelle nature. Mais elle ne viendra jamais en luttant, mais en abdiquant. Si je soumets en reconnaissant la seigneurie de Dieu, à ce moment-là, Dieu va faire quelque chose de merveilleux dans ma vie. Pour être victorieux, il faut être entièrement à Christ. Si comme Jacob, notre ténacité pour être béni révèle par la suite que nous sommes totalement des enfants de Dieu, c'est ce que Jean dira. Si on est né, nouveau, vraiment des nés, nouvelle naissance, alors nous sommes enfants de Dieu. Et à partir de là, Jacob, qui devient Israël, devient un témoin de Dieu. Parce qu'il va dire, j'ai vu Dieu face à face. C'est un magnifique témoignage. Est-ce que vous savez, je vous pose une question, est-ce que vous savez... Non, je vais vous donner la réponse. Dans la Bible, je ne crois pas qu'il y ait une autre fois qu'on voit un homme lutter avec Dieu. Réfléchissez. Si vous savez qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a lutté pendant toute une nuit jusqu'à l'aurore avec Dieu et qu'il va dire « J'ai vu Dieu face à face. » Personne. Même Moïse n'a vu qu'une ombre de Dieu. Si vous avez une réponse à donner, vous me la donnerez à la fin. Ça fera du bien. Et on peut dire qu'aucun homme et aucune femme ne peut rester dans son état initial après une telle rencontre. Non. Moi, je peux vous assurer, quand Dieu m'a rencontré, j'expliquais ça à un jeune d'ici, il y a quelques semaines, tout change. Je me rappelle que je disais que devant moi, il y avait comme un mur de verre opaque, un peu comme les vitres là, opaque. Et il y a eu un brisement que tout est tombé. Et je voyais un peu des couleurs de verdure. Je voyais quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. C'était mon changement déjà, de ce que je percevais à ce moment-là. C'était ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose de nouveau que j'allais découvrir, que je ne connaissais pas encore, mais je commençais à découvrir. Et c'est merveilleux parce que je disais, mais oui, je croyais connaître beaucoup de choses. Mais la soirée, je ne connaissais rien. La gloire d'une telle vision ne peut manquer d'aveugler nos yeux au plaisir de ce monde de perdition. Vous savez que Saul de Tarse, lui aussi, sur le chemin de Damas, a vu une grande lumière, une grande lueur. C'était quelque chose de majestueux. Mais cette grande lumière l'a fait tomber de son cheval. Eh oui, voyez, Dieu toujours nous brise. Parce que s'il n'y a pas ce brisement, vous passez à côté. Et c'est le malheur de souvent de personnes qui connaissent Dieu, mais qui ne sont pas passées par le brisement. Et vous savez, on retrouve ça dans les églises. Hein. On retrouve ça dans les églises. Des êtres qui aiment Dieu, qui sont dans la joie, quand ils sont là, présents avec d'autres, mais qui ne sont pas passés par le brisement. Et si on ne passe pas par ce brisement, je peux vous assurer qu'on manque le coche. Et vous savez qu'il y a des fois, comme ça, des hommes, des femmes, qui au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'ont pas vraiment rencontré Dieu. Ça, c'est la tragédie. Jacob, remarquez, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'il tournait. En ayant eu la bonne... Hein, il avait été rencontré par Dieu à Bethel. C'était une rencontre importante pour lui, mais il a vécu avec ses propres forces. Et en comptant sur ses propres forces, c'était la tromperie qui était mise en avant. Il a fallu qu'il y ait une rencontre comme celle-ci pour qu'il soit brisé. Pour qu'il soit brisé. Et je ne sais pas comment vous avez perçu ça quand vous l'avez lu une fois, deux fois ou plusieurs fois. Comment vous avez perçu, vous, Jacob? Parce qu'il est dit, il était vainqueur, Jacob. Posez-vous la question, est-ce qu'on peut être vainqueur de Dieu? Est-ce qu'on peut être vainqueur de Dieu? Ce n'est pas possible. Comment la créature peut être vainqueur du Créateur? Il y a un problème, non? Non, non. Il a résisté. Jacob a résisté parce qu'il ne voulait pas, dans un sens, encore là, découvrir le véritable Dieu comme l'ami personnel, comme celui qui allait l'accompagner, non seulement de temps en temps comme ça, mais tout le temps, tous les jours. Il avait besoin de ce brisement pour arriver à comprendre que Dieu, ce n'était pas le Dieu de son père, ce n'était pas le Dieu de son grand-père. C'était son propre Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin, nous, aujourd'hui, c'est de rencontrer ce Dieu véritable, mais comme mon Dieu, comme mon Seigneur. Si ce n'est pas ça, c'est triste. Saul, après être tombé, il va dire, enfin, ce n'est pas lui qui va dire, c'est le Seigneur Jésus qui va dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Et Saul va dire, pourtant c'était un pharisien, il connaissait c'est Dieu, il connaissait toute la parole. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur va lui dire, je suis Jésus, que tu persécutes. Depuis combien de temps persécutes-tu Jésus? Depuis combien de temps? Jésus, quand il était sur la terre avec ses disciples, il pouvait dire à eux, il pouvait leur dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jean, dans une de ses épîtres, il va préciser quelque chose. Retenez ce verset parce qu'il est très important. Comme d'ailleurs tous les autres versets. Je ne sais pas pourquoi je dis. Il est très important, mais comme tous les autres. Dans 1 Jean, retenez bien cette référence. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. 1 Jean 5, verset 20. C'est lui le Dieu véritable. C'est Jean qui dit ça, en parlant de Jésus. C'est lui le Dieu véritable. Aujourd'hui, si nous nous sommes approchés près de Jésus, par le Saint-Esprit, nous pouvons dire réellement « J'ai vu Dieu ». Une nouvelle attitude de Jacob, suite à tout ce combat mené pendant toute une nuit jusqu'à l'aurore, maintenant il boite. Il boite. Voilà, il y a quelque chose de nouveau en lui. Il boite. Le fait de regarder sa démarche et révélateur pour son entourage. On savait immédiatement que cela venait d'une rencontre avec Dieu. Vous savez, notre marche et notre conversation prouvent que nous ne sommes plus dans l'esprit de ce monde. Au contraire, un changement complet fait de nous des enfants de Dieu, car nos vies sont entièrement soumises au Seigneur. Regardez, même un cas extrême, je vous prends que des cas extrêmes, mais c'est ce qu'il y a de bien dans la parole, parce que la parole ne cache pas qui on est. Elle ne nous cache pas, elle nous montre qui nous sommes. Mais regardez, même le cas de Pierre, lorsqu'il renie le Seigneur trois fois dans le jardin, il y a une chose qui est positive dans Pierre. Il vient de renier. « Je ne connais pas cet homme », il va dire. Trois fois, « Je ne le connais pas ». Il va le dire à une servante, il va le dire à un homme. « Je ne connais pas cet homme ». Mais il y a quelque chose qu'il ne pouvait pas enlever, c'est être reconnu par son langage. Tous ceux qui l'ont vu et qui lui ont parlé ont reconnu qu'il était avec Jésus. Et ce n'est pas l'aspect physique, c'est notre langage. Parce qu'on a un langage qui n'est plus ce langage du monde. C'est un langage accompagné de paroles de grâce. Pour conclure, le verset 31 de ce qu'on a lu, il est dit que le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Péniel, dans la signification, j'ai vu Dieu face à face. Et Jacob boitait de rage, ce que nous dit le verset. Alors, qu'est-ce que ça peut nous rappeler, cela? Le soleil qui se levait lorsqu'il passa à Péniel, Jacob devenu Israël, j'ai vu Dieu face à face et qui boitait de rage. Cela doit nous rappeler que le soleil de justice vient bientôt. Et comme pour Jacob devenu Israël, un jour nouveau commence, car la lumière doit être permanente dans chacune de nos vies. Alors, le changement de Jacob n'est pas simplement que des paroles, mais les actes ont suivi immédiatement. Si vous lisez, je vous conseille, vous voyez, le chapitre 32 est intéressant pour montrer la nature humaine dans toute, j'allais dire sa splendeur, mais non, ce n'est pas sa splendeur, telle que nous sommes. Mais le chapitre 33 est à lire, parce que là, vous voyez qu'il va y avoir un changement complet. Pourquoi? Parce que Jacob, dans sa crainte, dans sa peur de son frère, avait mis en avant les troupeaux, avec ses serviteurs, derrière un autre parti avec ses femmes et ses enfants, et lui, il était resté tout seul. Vous lirez. Il était resté tout seul. Tout ça parce qu'il était dans la crainte. Parce qu'il ne se confiait pas en Dieu. Chapitre 33, ça a inversé tout cela. Il prend la tête, ayant derrière lui Rachel, Léa et les servantes, et il se prosterne devant son frère. Vous voyez, quand Dieu fait quelque chose de nouveau, il y a un changement complet. C'est ce que Jacob, appelé Israël, va vivre pleinement à partir de là. Il va devenir un témoin de Dieu. Parce qu'il a découvert que ce Dieu l'aimait. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est que Dieu se manifeste dans vos vies pour vous amener à vous tourner de ce monde qui vous n'amènera rien. Si vous regardez sur cette terre, vous aurez des formes de bonheur, ce sera toujours temporaire. Ce ne sera jamais un bonheur permanent. Alors que tourner les yeux vers le Seigneur, malgré que notre vie, vous savez, elle subit les coups, les contre-coups. Hein. Vous savez, vous n'êtes pas à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri. Mais en même temps, quand on sait sur quoi je peux m'appuyer, c'est une grâce. Savoir que Dieu lui est fidèle. Savoir que Dieu, même quand des choses terribles peuvent m'arriver, je peux m'appuyer sur lui. Et c'est ce qu'a fait Israël en quittant sa ancienne vie de tromperie. Amen. Prions. Merci Seigneur parce que ta parole qui est la vérité, permet encore aujourd'hui de saisir de quel amour tu peux nous aimer, Seigneur. Et cet amour que tu as manifesté à Jacob, parce que tu l'as suivi pendant toutes ces années, malgré ses tromperies, malgré tout ce qu'il a pu commettre, Seigneur, ta fidélité est grande. Tu n'as pas quitté ton regard, cet homme. Mais Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est que au moment où tu l'as décidé, au moment favorable, tu as transformé Jacob. Tu lui as permis qu'il ait un autre regard, non seulement sur lui-même, mais surtout sur toi. Et tu as permis, Seigneur, qu'il devienne ton enfant à part entière. Alors merci, Seigneur, que cela soit un exemple pour notre vie, que nous puissions porter nos regards sur celui qui nous a sauvés. Ton nom soit béni et glorifié, Seigneur. Amen.
Je partage avec vous les annonces. Je vous laisse découvrir le programme sur l'écran. Mardi, on a donc l'étude biblique sur le thème « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Voilà.
Je vais faire la pub de l'étude biblique. Donc le thème sera sur « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». C'est pour Luc 16, verset 13, le passage de référence pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ont le livre, et pourtant Jésus l'a dit, c'est dedans. Pourquoi est-ce qu'il faut venir? Je vous donne deux raisons. La première, on va étudier la parabole la plus louche de toute la Bible, là, enfin de tout le Nouveau Testament. Moi, je l'avais un peu oublié, cette parabole, je l'ai relue en fin de semaine, ça m'a un peu perturbé. Alors, je vous invite à aller la lire si vous venez, et même si vous venez pas, et puis après, on la partagera, c'est la parabole de l'économe avisé, qui est dans tout le début du chapitre Luc 16. Première raison. Deuxième raison, on va essayer de résoudre ce mystère ensemble. Par rapport à l'argent, quel est un des symboles les plus forts de l'argent sur Terre? Le dollar américain. Ça, c'est dans le livre, pour ceux qui l'ont. Ils disent un truc étonnant par rapport au dollar américain. Qu'est-ce qui est marqué sur chaque pièce, chaque billet des dollars américains? In God we trust. Notre confiance est en Dieu. Je ne vais pas acheter la pierre, mais c'est un peu bizarre. On va en parler ensemble mardi. Donc venez, je ne peux pas vous garantir que vous allez repartir plus riche que vous n'êtes venu avec de l'argent ou des choses comme ça, mais vous allez repartir plus riche, je l'espère, avec des richesses spirituelles. Donc venez, Luc 16, le 16 1 à 13.
Et puis donc, nos études bibliques sont basées sur un livre qui s'appelle « Et pourtant Jésus l'a dit ». Et il y a encore de ces livres à la librairie, si vous voulez vous le procurer. Il y a une annonce qu'on a oublié de mettre à l'écran, c'est que demain soir, il y a un repas avec le Fun Club, c'est juste. Donc ici, à 6h30, 18h30. Sinon, samedi, la rencontre Explosion de louanges, qui aura lieu ici au CEP. À 17h donc. On vous invite à continuer à prier pour le Burkina Faso, suite aux attaques de vendredi, aux attaques terroristes. Le Burkina n'est pas épargné ces derniers temps, et pensons aux chrétiens qui sont aussi dans ce pays, à nos amis, Jean-Daniel et Pascaline, leur famille et le collège aussi. On veut continuer de penser à Anne-Lise. J'ai visité Anne-Lise vendredi soir. Elle est toujours à Belle-Rive. Je pense qu'elle va y rester. Elle est toujours reconnaissante d'être visitée. C'est incroyable quand on lui lit des passages de la Bible, comme ça lui fait du bien, comme elle apprécie. Par contre, c'est plus difficile à maintenir une conversation. Je ne sais pas si d'autres l'ont visitée ces derniers temps. Donc voilà, petit à petit, elle prend toujours de l'âge, comme chacun de nous, mais elle est plus près de l'autre bout de la vie. Donc continuons de penser à Anne-Lise, et moi je vous invite vraiment à la visiter. Elle a vraiment besoin de visite. Anne-Lise, c'est quelqu'un qui a besoin de contact, beaucoup, et tout particulièrement maintenant. Donc voilà. Encore une annonce. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'association Espoir Gessien, une association qui est à Saint-Genis. C'est une association qui vient en aide à des personnes qui n'ont pas de logement. Et donc, ils accueillent actuellement une famille qui a 3 enfants en bas âge. Et cette famille a trouvé un appartement à Prefsa, donc tout près de l'église. Cette famille a besoin de quoi remplir un appartement. Donc, si vous avez des choses qui ne vous servent plus, un frigo, un micro-ondes, tas de sortes de choses qui vont dans un appartement, ben vous pouvez voir ça avec Lydie qui fera un petit peu le lien. Et c'est important aussi de manifester aussi notre soutien, notre amour à des personnes qui en ont besoin, qui sont simplement dans le besoin matériel. S'il n'y a pas d'autres annonces, oui.
Le culte découverte, c'est important.
Oui, juste le culte découverte, ouais, bien vu. N'hésitons pas, ou même, je vous encourage même vraiment à inviter des personnes. Le culte découverte, c'est un culte spécialement organisé et tourné vers l'évangélisation, vers la transmission de l'évangile aux personnes que nous connaissons. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour inviter des voisins, des amis.
C'est Philippe de la Fuente qui prêchera.
Voilà, et c'est Philippe de la Fuente qui a déjà prêché plusieurs fois ici, qui donnera le message. Donc, on connaît son dynamisme, son peps. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Il y a aussi un programme particulier pour les enfants, dans le cadre des écoles du dimanche. Donc, c'est vraiment un culte adapté à l'évangélisation. Et c'est important aussi, je pense qu'il y a peut-être encore des petits flyers derrière. Voilà, pour l'apéritif qui suivra, donc chacun amène un petit bout et on partage. Je vous invite à vous lever, je vous lis encore 2 versets dans Éphésiens. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.